Carré présente
Radio Primitive.
La radio libre et associative.
Daiquiri.
L'émission LGBTQ transpète des bigouines de Reims.
Bon, surtout Gwyn.
TKR.
Daiquiri sur Radio Primitive.
Yeah, fuck you. You don't fucking know me.
And I'm as free as the wind that's blowing out on this beach.
Daiquiri.
Daiquiri.
What are you all looking at?
TKR. Bonsoir.
Bonsoir, il est 18h sur Radio Primitive et c'est bien ce que je pensais, les chansons s'enchaînent, ça va être génial ce soir. Vous êtes en direct, d'où les petits trucs techniques qui arrivent déjà les amis. Vous ne nous avez pas regardé, vous ne nous voyez pas dans les studios, mais Gwen elle était en train de s'étirer, elle était en train de se donner des claques.
Voilà, je me réveille.
C'est un peu notre petit rituel avant d'aborder cette émission LGBT. Chaque mois, on est ravis que vous nous retrouviez pour une heure d'actualité très locale. Ce mois-ci, on a décidé de revenir vers le chez nous.
Malgré les claques, on ne va pas parler de BDSM, promis.
Oui, bah, peut-être que les gens te voudraient bien d'ailleurs qu'on parle de BDSM.
Bientôt.
Mais non, puisque ce n'est pas passé inaperçu, même pour vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Primitive, la semaine dernière, il y a eu beaucoup de choses à Reims, pour une fois.
Autour du 8 mars.
Du 8 mars, la journée internationale de lutte. Pour les droits des femmes. Des femmes, on est plein.
Et si tu dis journée de la femme, je t'enflamme.
Ah, c'est pas mal ça. Moi, je l'ai appelé journée de la flemme. J'ai suivi Twitter. Twitter avait intitulé ça journée de la flemme. Flemme d'expliquer aux mecs que ça va venir le 8 mars. Et puis pourquoi c'est quand la journée de l'homme? Et puis.
<Tous les jours.
rire> Voilà. Chaque année. On en a ras la casquette d'expliquer pourquoi c'est légitime d'avoir un 8 mars ou pas d'ailleurs, puisque chacun son avis. Hein,
oui, mais c'est important, la lutte, toujours la lutte.
Voilà.
Vous connaissez.
Et donc cette année, on était assez surprise, il se passait pas mal de choses à Reims, mais peut-être parce qu'on
en a organisé le bal.
C'était le petit moment narcissique d'Akiri. Et donc on a décidé pour cette émission, si vous le voulez bien, eh bien de revenir sur tout ça, étape par étape, en vous disant un petit peu ce qui s'est joué, mais aussi surtout ce qui s'est discuté, puisque c'est ça qui est intéressant. Et on avait pas mal de choses à en retirer, tout ça, bien sûr, agrémenté de musique sélectionnée avec grand soin.
Et c'est pas du tout parce que personne n'a voulu venir aujourd'hui, on vous jure.
Un petit peu quand même. Il y avait, à la base, on avait des gens, et puis non. Et puis il y avait des enregistrements, et puis non.
Et donc, on va tout vous raconter.
Vous vous satisferez de nous, les amis. Et je vous propose du coup de commencer en musique avec. Tiens, on va mettre celle où j'ai le moins d'infos, comme ça on commence bim, direct, si vous le voulez bien.
Okay.
Je vous propose de partir au Brésil. Ouais, avec Ludmilla, une rappeuse qui apparemment. Alors. Non, pas rappeuse, ce n'est pas vrai. Une chanteuse d'Amérique du Sud. Mmh. Alors, sur son wiki, c'est marqué quand même que c'est la plus grande femme noire chanteuse d'Amérique du Sud. Et je me dis toujours, quand je lis ces Wikipédia, est-ce que c'est eux qui les écrivent ou est-ce
question.
Que c'est franchement narcissique quand même? J'en sais rien.
On fera un sondage.
Peut-être. En tout cas, c'est super sympa à écouter. Je vous invite à aller parcourir un petit peu sa discographie qui est très féministe. On va s'écouter le titre Reina da Favela, bien sûr, en brésilien.
Ah bah oui.
Ça tombe sous le sens. Et c'est tout de suite, du coup, sur Radio Primitive pour débuter cette émission du Big Bang. Pas du tout. Tu vois, c'est la déformation professionnelle, ça. De Daiquiri.
Daiquiri, voilà. DKR.
Reina da Favela, c'est Ludmilla dans Daiquiri.
Foca no meu, só no meu, só no meu. Foca no meu bumbum. Aqui é só trabalho lindo. Mãe por cima tá rindo. Eu já matei mais um. Eu já matei mais um. Do meu jeito envolvente. Botando a chapa quente. Causando um zum, zum, zum. Causando um zum, zum, zum. Entre becos e vielas. Rainha da favela. Foca
bumbum. Foca no meu bumbum. Foca no meu, foca no meu, foca no meu. Foca no meu bumbum. Bumbum, bumbum, bumbum. Foca no meu bumbum. Aqui é só trabalho lindo. Mãe por cima tá rindo. Eu já matei mais um. Eu já matei mais um. Do meu jeito envolvente. Botando a chapa quente. Causando um zoom, zoom, zoom. Causando um zoom, zoom, zoom. Entre becos e vielas. Rainha da favela. Foca no meu bumbum.
De subir mi avión, estoy llegando. Nos vemos pronto.
La reine de la favela.
On s'ambiance. Direct, direct, on s'ambiance.
Ludmilla dans Daiquiri.
Bah, c'était bien cool.
Ouais, c'était sympa. Hein. J'ai trouvé ça. Je me suis dit, pour débuter l'émission, ça va être cool. Et aller voir le clip, c'est vraiment la reine de la favela. Hein. Billet, meuf, surbête, fa-fa. Enfin, voilà. Quoi. C'est pas de la rigolade. Hein. Nous, on fait pas les malins avec côté de ça. On est reparti.
On commence par un petit report sur ces événements autour du 8 mars. Donc le premier, c'était le 5 mars devant la mairie de Reims sur l'esplanade Simone de Beauvoir où trois associations, donc le planning familial, Ex-Eco et AIDS se sont retrouvées pour faire un petit fêtage associatif et commencer à fêter en avance ce 8 mars, vu que ça tombait un mardi, si je me trompe pas. Oui, c'est un mardi.
Oui, c'était le mardi, et donc vous vous êtes regroupés le samedi
exactement,
matin.
Juste avant.
Le samedi matin, fin de matinée, on va dire.
En distribuant des tracts aux badauds qui passaient, en faisant des petits discours devant la mairie avec une enceinte qui n'a pas voulu marcher.
Oui, mais ça, c'est le monde associatif,
mais ça, c'est
normal.
Ouais, on marche avec des clous et des vis, c'est compliqué. Et j'ai voulu faire un petit micro-trottoir, mais là aussi, la technique n'était pas avec moi et mon Zoom alors prenait ma délicate voix en enregistrement, mais pas celle des personnes que j'ai interrogées. Donc, je vais vous faire un petit résumé à la bouche personnelle de ce qui est ressorti des questions que j'ai posées à ces personnes. Alors, c'était des personnes qui étaient présentes au rassemblement, qui étaient identifiées comme femmes, et je leur ai posé des petites questions justement par rapport au féminisme en gros. Donc la première chose que j'ai demandé, c'était quand elles ont découvert leur féminisme, et je me suis rendu compte que c'était plutôt très 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 jeune. Alors pour deux raisons principales, soit parce que on les limitait, on les réduisait dans leurs activités qu'elles avaient envie de faire en tant qu'enfants, mmh. en disant mais non ça c'est pas pour les filles, mais non ça tu peux pas, non mais toi faut que tu restes propre, non t'as pas le droit de te bagarrer, des trucs comme ça. Donc ce qui les a mis en colère parce qu'elles comprenaient pas pourquoi elles n'avaient pas le droit et les autres qui étaient identifiées comme garçons pouvaient. Et l'autre chose, plus dégueulasse encore, c'était cette hypersexualisation qui pouvait arriver déjà très tôt, alors de la part de leurs camarades, mais aussi de la part des autres hommes de tout plus âge. Vieux. Oui, donc ça, le côté un peu crade,
ouais.
En disant dès que t'as les seins qui pointent, ça y est, tu deviens de la chair à canon.
Et ça, c'est, enfin après, ça dépend de quelle génération appartenaient les personnes avec qui tu t'as parlé. Mais moi, je sais que la génération de ma mère, ça se faisait encore beaucoup, et ça faisait. Enfin voilà, il fallait rien dire, ça faisait partie du c'est normal que tel oncle te tripote à moitié, que te mette une main aux fesses, enfin voilà, et on dit que c'est générationnel. C'est dur quoi, c'est dur.
Bah, le panel, c'était bien, c'était des gens, il y avait des jeunes, il y avait des moins jeunes, donc c'était, on va dire que c'était totalement représentatif de la population féminine française. Allez hop. moi aussi je dis que mes chiffres ils sont parfaits.
N'est-ce pas ?
Alors la deuxième question, c'était les trucs qui les saoulaient. Il y avait un truc, un point d'orgue en fait, hein, vraiment qui les énervait sur le sexisme.
Sur le
de la
sexisme
société.
Actuel.
Ouais, parce qu'elle se prenait dans la gueule. Donc le premier qui est ressorti, c'était le fait de pas être prise au sérieux, juste parce qu'on était visibilisé comme femme. Donc tout de suite parce que t'es conne forcément, ou ce que tu dis ça sert à rien,
ou alors
ou
faut
on s'en fout.
Voilà.
Et quand tu te rends compte et que tu t'énerves, du coup, bah, on va te traiter d'hystérique.
Oui,
le classique, comme ça, tu peux rien faire. Et l'autre chose, c'était encore cette hypersexualisation qui revient très vite. Avec le fait que tu sois apprêté ou négligé, tu vas te faire emmerder. En plus, ça rime.
Ouais.
Parce que, au final, voilà, que tu sois en mini-jupe, voilà. Que tu sois avec un gros décolleté ou que tu sois en jogging claquette chaussette, ce
faut
sera la même.
Qu'on vienne
juste
commenter.
Parce que tu es une femme et que du coup, on a besoin de juger, de dire un truc sur toi.
Sur certaines définitions aussi, enfin sur certaines identités de femmes. Parce que moi, en tant que meuf butch, c'est le genre de de remarques, j'allais dire compliments, mais tellement pas, de remarques que j'ai, par exemple, très peu, moi, dans mon expérience.
Mais peut-être parce que hétéro te voit comme un mec,
mais
un
voilà,
petit garçon.
Clairement, et ça serait encore plus inquiétant, je pense, si me sexualisait, parce qu'avec mon air de petit garçon, ça me ferait encore plus flipper, quoi. Mais ouais, ça veut dire que, quoi qu'elle fasse, qu'elle décide d'attacher du soin à leur apparence ou à s'en foutre, elles vont être quand même critiquées, jugées, il va falloir qu'elles s'expliquent.
Et que l'espace public est un terrain des hommes, et du coup, qui sont libres à eux de pouvoir jauger et regarder qui ils veulent parce que c'est leur territoire. Et que nous, on fait que y passer et il vaut mieux être accompagné pour pas être emmerdé. Ce qui est horrible. Ouais. C'est pour ça qu'on fait le 8 mars tous les ans. Il devrait peut-être le faire tous les jours.
Et c'est pour ça aussi que tu as posé ces questions-là, parce qu'on en était quand même venu à se dire, bon, alors cette année, les axes, c'est quoi ? Parce que chaque année, bien évidemment, on lutte quand même pour les droits des femmes. Donc du coup, il y a des axes qui sont décidés, et même s'il y a plein de gens qui pensent que... il y a peut-être plus contre rien qu'on doit se battre, tu vois. En fait, les combats sont multiples et il y en a encore beaucoup. Et vous inquiétez pas, on sera encore là très très longtemps.
Puis comme on disait, c'est pas parce qu'une loi est passée que dans la société civile, c'est accepté. Ou que même si la loi est là, que la pratique est vraiment faite. On peut faire l'exemple de l'avortement. On a une loi qui permet l'avortement en France, mais on envoie encore des meufs en Belgique pour pouvoir se faire avorter. Alors que là, même si on a gagné un petit allongement des dates en passant de 12 à 14 semaines, ça reste encore très court. Il y a encore plein de médecins, gynéco, tout ça, qui font un travail militant pour sauver des vies, comme ils le disent, en empêchant des meufs de pouvoir prendre les décisions au bon moment pour justement pas tomber à cette barrière des 14 semaines. Et c'est dégueulasse. Donc du coup, on est obligé d'encore avoir recours aux pays limitrophes qui, eux, sont plus ouverts sur la question, en sachant que l'OMS elle demande 22 semaines, hein, donc nos 14, on est super loin de ces... Et il y a un pays, alors je sais plus lequel, qui a récemment accordé jusqu'à 6 mois. Donc voilà, on a du taf.
Ouais, c'est clair, on se positionne pas très bien.
Et justement, je leur ai demandé, est-ce que si tu pouvais échanger un truc comme ça par magie, en caressant la lampe magique du féminisme, tu pouvais changer un truc maintenant, qu'est-ce que ce serait ? Et la plupart des réponses étaient intéressantes en disant qu'en fait, un seul truc, ça suffirait pas. Même le plus crade possible, les violences, les morts, les viols, en fait, ça suffirait pas parce qu'en fait, c'est un système global qui se tient en lui-même et que du coup, juste retirer une pièce de l'engrenage, ça permettrait
ça
pas de tout
rien,
niquer.
Quoi.
Et du coup, il faut arriver à une révolution globale.
Pour détruire le patriarcat.
Voilà, exactement.
puisque nous faites pas le, parce qu'on y a quand même eu le droit, on y reviendra très certainement hein, dans les petites conférences auxquelles on a pu assister, les hommes qui marquent bien leur présence, même s'ils sont seuls dans une salle, pour dire que mais les hommes, mais oui, on t'a vu chouchou.
Mais surtout que tous les événements qu'on va vous parler étaient ouverts à tout le monde, il y avait pas de enfin c'était très inclusif, mais là oui, il y avait très pratiquement même pas de mecs hein.
Enfin, non mais parce
on
que
on le rappelle, et ceux qui étaient là du coup prennent de la place et viennent essayer de te dire que hey, ce que tu dis en fait c'est de la merde, mais ça on le reverra dans les détails avec les autres événements qui vont suivre. Et la dernière question avant de passer sur une petite musique, c'était justement si elle se définit comme féministe. Donc la plupart m'ont répondu oui. Bon, le fait qu'elle soit présente à cet événement devant la mairie, je pense que pour ce 8 mars, c'était un peu normal. Mais la plupart ont dit que c'est vrai qu'au début, c'était compliqué. Parce qu'on avait vraiment cette vision, quand t'es pas entré dans les féministes, quand t'as pas vu qu'il y a une diversité, le discours qui est vraiment dit par chacune à l'intérieur, t'as peut-être l'impression de voir justement l'image que les hommes ou les médias vont te donner, donc les méchantes féministes anti-hommes qui veulent couper des couilles. Et,
radical, qui, on dit.
Voilà, c'est ça, radical. Et en fait, du coup, pour se définir soi-même comme ça, en fait, faut attendre un peu, d'avoir un peu plus de bagages, de découvrir d'autres chemins, d'autres de rencontres, enfin, de lire des bouquins, d'avancer dans sa culture, en fait, parce que c'est une culture féministe.
Puis et il faut se l'approprier, enfin, faut que ça résonne en soi avant de faire résonner le parcours des autres aussi dedans, quoi.
Tu vois. Voir les effets justement positifs que ça a sur sa vie, de se permettre d'être mieux armé pour subir justement tout ce que les merdes sexistes qu'on se prend au quotidien. Donc elles l'ont très vite pris comme étendard, mais ça a été compliqué de le faire. Mais maintenant, elles le font totalement avec décomplexion.
Et c'est pas donné, hein, parce qu'il y a encore quelques années, c'était assez peu fréquent qu'on se définisse comme féministe.
Peut-être que la vague culturelle en mode féministe washing de Beyoncé, et tout ça, a quand même pu aider. Et d'un côté, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais?
On en tirera le bon quand même.
Mais ce qui est bien, c'est qu'on en a parlé. Et plus on en parle, mieux c'est, si ça peut permettre à des meufs d'arriver dans les féminismes grâce à ça.
Oui, parce que plus nombreuses on est à décrier ce système qui nous exploite toutes, hein, rappelons-le, et même pas que les femmes, d'autres minorités de genre. Et plus on sera nombreuses, plus on proposera d'alternatives, puisqu'il est question de ça aussi dans les féminismes. Ce n'est pas que dire « Oh là là, on en a marre !» C'est proposer du changement, et c'est pour ça que je pense qu'on est radical et que ça fait peur, parce que le changement, et on en reparlera aussi, ça implique que les mecs, il va falloir renoncer à des privilèges. C'est obligé.
Mais globalement, ce sera bien pour tout le monde. Donc,
Pour le bien de toutes, il faut le faire. Musique, maestro, qu'est-ce qu'on...
À moi, à toi.
À toi, du coup. Hein.
À moi, ok.
Écoute, j'ai commencé.
Vas-y, mets-moi puis-si ou liquoire.
Alors... Pour une straight edge, c'est marrant quand même. La liqueur de shot, on va le dire comme ça. Désolé la censure de vos postes radio.
C'est peut-être la cyprine, je ne sais pas. Moi, je vois ça comme ça. Donc, c'est totalement naturel et sans alcool. Alors, du coup, c'est un groupe DIY punk de Female Empowerment de Brighton. C'est cinq meufs qui se sont rencontrées à la fac et qui font du son super chouette. Elles ont deux IP qu'elles ont sorties en 2018 et je connaissais pas, et franchement c'est bien cool. Et je crois que la chanson c'est
My Body, My Choice.
Totalement 8 mars.
Génial.
Just 'cause I was giving you a step love, we're not in right.
du bien, c'est, ça réveille. Tu m'as réveillé, Gwen, merci, bienvenue à vous. Vous êtes dans Daiquiri, on va pas se tromper cette fois-ci. Et on vient de se passer Pussy Liquor, My Body, My Choice. D'habitude, c'est moi qui mets les chansons plutôt punk.
Ouais,
et d'habitude, c'est toi qui mets les chansons plutôt R&B rap. Et aujourd'hui, et ben, c'est tout à fait l'inverse, les amis, parce que nous ne voulons pas que vous vous habituiez trop à ce format. Donc c'est pour ça qu'on le fait toujours à l'arrache, histoire que... histoire que, voilà, vous soyez pas lassés, les gens. C'est comme ça. On va continuer sur notre petite émission qui revient sur les événements donc réalisés dans le cadre du 8 mars à Reims, de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et donc, après un premier événement qui se passait donc sur le parvis de l'hôtel de ville, eh bien, on a pu assister à une projection qu'on avait déjà vue, disons-le, puisque le planning familial avait déjà organisé cette projection, mais pendant le Covid, disons bien le Covid, pendant le Covid, pendant le confinement, donc on avait regardé sur nos petits ordinateurs, et c'est clairement pas la même expérience quand même, puisque cette fois-ci nous sommes allés à l'Opéra pour aller voir Female Pleasure.
Bon, j'avoue, on y allait parce qu'il y avait des lots à gagner aussi. Hein.
Oui, mais ça, vous allez savoir après. Un film documentaire réalisé par Barbara Miller qui revient sur le portrait de 5 femmes qui, malgré leur contexte géographique, contexte économique, contexte social différent, eh bien, se battent toutes contre les préjugés et contre le sexisme, en fait. Et on voit, bon, il y a pas mal, c'est pas mal axé religion, mais je pense que...
Ce qui était bien, parce que du coup, chaque religion était vue par ce prisme, ouais. Et c'était pas mal de montrer que chacun, c'est un peu la même
merde
sur les femmes.
Ne vous fiez pas aux 20 premières secondes du documentaire où on a eu très très peur. Vous verrez pourquoi. mais
non, au
final, il y avait beaucoup de nénettes voilées. Je me suis dit, oula, ça va être un peu islamophobe.
Non, non,
et non, 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 non. Alors voilà.
Il date de 2018-2019.
2018, ouais. c'est ça. Et c'était quand même clairement pas la même expérience, donc du coup, de le revoir en salle, ce Female Pleasure. On remercie bien sûr le planning familial d'avoir organisé ça, puisque c'était quand même... je dirais pas sympa, parce que c'était quand même un peu... C'est un thème qui est pas non plus super jojo, quoi, mais c'était plutôt sympa.
Et surtout qu'il y avait du monde, donc c'était cool de le voir ensemble, puis de pouvoir discuter un peu après avec la salle...
Justement, puisque après la projection était proposé donc un petit temps débat qui était animé par les services civiques du planning familial, qu'on faut le souligner en fait. Oui, enfin c'est la même chose. Enfin non, c'est les... mais oui. Et du coup ont fait un super taf quand même. Il faut le souligner. Et après cette petite discussion, on a eu le droit à une loterie.
De l'amour.
C'était génial.
Ouais, on ne dit pas ça parce qu'on a gagné des trucs, hein, mais c'était trop bien.
Et vous pouviez gagner des magazines féministes,
oui.
Des affiches et des livres du planning familial, mais aussi...
Des sextoys.
Des sextoys, j'ai essayé de faire un roulement de tambour, mais c'était nul.
On n'a rien entendu.
Oui.
Faut le faire sur ton micro, en fait.
Ah, d'accord.
Mais c'est une mauvaise idée pour les auditrices.
Et on a gagné des sextoys d'une marque que je ne connaissais pas, qui s'appelle Puissante, qui doit être une marque française, je pense. Et du coup, c'était une chouette soirée, en fait, parce que, cette petite tombola, comme tu le disais, ça a fait que les gens sont restés et c'était plutôt bien sympathique. Malheureusement, pour le planning familial, Arte a programmé le même documentaire le même soir. et n'a prévenu personne. Merci Arte de nous faire ce genre de petite... Bref, ce qui est sympa, c'est que ma mère a pu le regarder en même temps que moi, sans le savoir. Et figurez-vous que la génération d'avant a aimé aussi. Donc...
Dixit
ma mère.
Dixit ta mère maintenant, mon déquis.
écoute, pourquoi pas. Je sais pas ce que t'as pensé, toi, de ce deuxième visionnage.
Il y avait des moments que j'avais un peu... Enfin, j'avais pas le même souvenir. Genre l'histoire de la nonne là, qui a été violée dans le cadre de l'église et qui a essayé qui a parlé et qui a essayé de faire reconnaître ça dans les autres instances papales. En fait, je pensais que son histoire était vachement plus triste à la fin. Puis en fait, non, elle était triste.
C'est peut-être pour ça que c'est triste.
C'est peut-être ça. Mais du coup, elle arrivait à fonder une famille, avoir des enfants, puis à continuer sa vie malgré ce qui s'était passé, malgré que ce soit pas reconnu par l'église. Mais du coup, moi, dans mon souvenir, c'était un truc juste trop triste, horrible. Et je sais que l'autre moment, c'était était, il y a une personne donc qui était excisée et qui faisait un peu un truc pédagogique avec des jeunes garçons, avec une énorme vulve en pâte à modeler qu'elle montrait les différents types d'excisions qui existaient. Et donc du coup, bah, elle arrive avec un énorme ciseau et elle montre exactement ce qui se passe. Et du
c'est
coup,
une espèce de pâte à modeler.
Ouais, une pâte à modeler de couleurs, tout ça. Et du coup, ça, j'avais pas. Enfin, du coup, ça m'a vachement plus marqué la deuxième fois et j'avais pas ce souvenir de ce truc. Ouais. Et je trouvais ça super pédagogique de vraiment voir ce qui se passait, voir les différents types en fait d'excision, parce que souvent on pense que c'est juste le clitoris qui est retiré, alors que non, il y a trois ou quatre types différents.
Avec on enlève les
plus ou moins hardcore.
Petites lèvres, moyennes lèvres, grandes lèvres, on recouvre. Ouais, on recouvre, on ne voit pas la totale, mais
donc ouais, ça j'ai trouvé ça. En plus, c'était assez pédagogique parce que pareil, les garçons qui là. Peuvent se rendre compte vraiment de ce qui se passe et donc ont pu faire plus de pédagogie derrière pour empêcher que ça arrive encore dans encore beaucoup trop de pays quoi.
Donc une projection accueillie très, j'allais dire joyeusement, mais non, mais en tout cas on était quand même très contente de se retrouver toutes à l'Opérince avec le planning familial et on les remercie de mettre ce genre de choses en place et d'ailleurs c'est pas la dernière fois qu'on en parle je crois, ou peut-être que si. Sur les événements qu'il y a eu après pour ce 8 mars. On va vous poursuivre, on va passer d'une projection à
au débat qu'il y a eu le lendemain.
Un débat qu'il y a eu le lendemain, là c'était plus sur le quartier Croix-Rouge, on est allé à la fac.
Organisé par le CROUS.
Ouais, on est allé à la fac sur la demande du CROUS, justement.
Ce qui était chouette.
Ouais.
Donc il y a trois associations qui sont intervenues. Donc Ex Aequo, Égayons-nous, qui est l'asso LGBT de Néoma, et l'asso féministe Nous Toutes, 51.
Ouais. Et on était invités pour regarder d'abord un petit un vox pop d'Arte qui parle des non-binarités.
Qui était un peu compliqué. Je trouve que c'était pas forcément le truc que j'aurais passé pédagogiquement parce que enfin en plus il y a Arte fait du bon contenu mais là du coup il y avait ce truc de il faut dire enfin faut des gentils, faut des méchants.
Alors,
donc il fallait
c'est la spécificité
un pro
de Théma, ouais, hein, ça, moi hein. Qui regarde de temps en temps Théma, c'est vrai que malgré les sujets qui sont enfin qui à chaque fois je me dis ah ça va être chouette et ben en fait l'angle Théma me sciait assez peu, moi,
ouais,
généralement.
Je trouve que les questions de la journaliste n'étaient pas super intéressantes. Enfin, c'était des trucs un peu faciles. Mais bon, ça permettait justement de parler de la non-binarité. Et après, on a pu rebondir avec les étudiantes majoritairement qui étaient présentes dans la salle. Bon, après, on va dire le débat, c'est sur être femme en 2022. Donc, on peut dire que c'est à cause de ça que nos camarades masculins ne sont
pas
venus.
Alors, les gars, si le 8 mars, vous avez le droit de venir, en fait, et quand il y a des trucs féministes, à part si c'est indiqué que c'est en non-mixité, où là, bah, clairement, vous n'êtes pas les bienvenus. S'il y a d'autres événements, en fait, venez, parce que c'est aussi un enjeu pour vous, les féminismes, quoi. Enfin, on est plus de 50% de la population à dire qu'on en souffre, et en fait, vous en avez rien à taper, ou juste parce que vous avez l'impression que c'est contre vous, vous vous y intéressez pas, et c'est grave, en fait. Et moi, ça me choque toujours autant quand je participe à des séminaires sur des trucs de féministes, qu'il y ait zéro mec, quoi, à chaque fois, et que dès que t'organises un truc en non-mixité, par contre, ça vient gueuler dessus, comme quoi j'ai pas le droit d'y aller, mais mec, tu ne viens pas de toute façon. Donc arrête de venir me prendre le chou. Enfin, bref.
Donc on sera pas là forcément pour vous éduquer tout le temps, mais il y a Google, il y a des livres à lire, il y a des trucs à regarder sur Internet, donc vas-y, hein, lancez-vous. Hein.
Donc ce débat au CROUS, c'était être femme en 2022, ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, et donc en partant des non-binarités...
Parce que moi j'étais venu avec ma casquette Ex Aequo, donc du coup on était surtout pour parler de transidentité, parce que alors on en a pas vraiment parlé pendant le débat, mais on sait que dans la presse mainstream, on a pas mal lu de trucs sur les féministes se divisent sur la question trans, alors que non, les féministes se divisent pas sur la question trans. Il y a juste quelques personnes transphobes qui font du bruit et qui donnent l'impression que c'est le cas.
Et
c'est pas du tout les faits.
On vous conseille d'aller écouter l'émission qu'on avait réalisée en tout début de saison avec Camille sur le transfémisme et les TERF.
Voilà. Et on aura un truc dans l'agenda aussi à vous proposer localement sur Reims. Mais oui, donc on est revenu surtout sur ce vivre ensemble justement avec nos diversités, avec les petits tips, genre les toilettes mix qui permettent aux personnes trans et non binaires de pas se casser la tête pour savoir où ils vont pouvoir faire pipi ou caca. L'utilisation à la fac du prénom choisi par l'administration, qui du coup une circulaire qui a été lancée, donc ça c'était bien de le redire aux personnes si c'était pas au courant, et ça peut permettre justement de pouvoir vivre ses études de façon quand même plus safe, parce qu'on peut on utilise le prénom qu'on a choisi, donc qui permet de mieux nous genrer, et c'est vrai que ça peut éviter pas mal de problèmes.
Et surtout aussi faire le lien avec les associations qui sont présentes sur le territoire. Là en l'occurrence on était trois présentes ce soir-là, donc ça veut dire aussi que vous soyez étudiant ou pas d'ailleurs, si vous vivez quelque chose qui est en lien avec vos identités LGBT ou le sexisme, le féminisme, et que vous avez besoin d'en parler, les associations sont là pour vous. N'hésitez pas à contacter, que ce soit Execo ou les assos LGBT affiliés à vos écoles, ou nous toutes 51, ou peu importe en fait, mais référez-vous aux associations existantes, parce que c'est pour ça qu'on est là en fait.
Et après, le reste du débat, en fait, on a surtout montré que la différence femme-homme était avant tout historique et culturelle et pas que biologique. Surtout que sur l'effet biologique, on voit bien que la science, elle pose des postulats et après, elle se rend compte que c'est pas vraiment ça. Donc à chaque fois, on avance sur plein de sujets. Et qu'on rappelle qu'à la base, les scientifiques étaient majoritairement des hommes. Donc du coup, avec une vision pas mal biaisée des faits. Et ensuite, ouais, on est parti sur justement la question sur la normalité, en disant que non, justement, la société, on était loin de l'universalisme à la française qu'on essaie de nous prôner, que voilà, on était tous différentes, qu'on avait tous des avantages, des inconvénients, enfin, et que c'était ça qui était cool, et qu'il fallait peut-être un peu déconstruire ça et dire qu'en fait, la diversité, elle permet aussi de vivre ensemble, en fait, c'est pas en étant des clones que.
Sauf que la conclusion était pas très positive au final. Je sais pas si tu te rappelles que disait c'est qu'au final, être femme en 2022, c'est partager le vécu de la violence en fait, le vécu de l'oppression. Et en fait, c'est ça la chose qui nous définissait, enfin en tout cas qui est sortie de cette discussion ce soir-là. Et je trouve que c'est vraiment mettre le doigt sur quelque chose de encore une fois grave en fait. C'est que notre vécu, c'est un vécu minoritaire. Notre vécu, c'est un vécu de violence et d'oppression, et c'est ce qui relie les femmes, et ce qui fait aussi que c'est pour ça qu'on doit se soutenir entre nous et faire appel à cette sororité.
Ce qui créerait du positif, parce que là du coup, en parlant de ces discriminations, on se retrouve pour arriver à lutter ensemble, on regagne du pouvoir et on arrive à changer les choses. Donc là, on fait le constat que ça va pas, et là et maintenant, on va avancer pour que ça change.
On va se passer
petite musique.
Ouais, une petite musique avant de revenir sur un autre débat qui était super super riche qu'on a eu mais cette fois-ci dans les locaux de notre très cher asso, je crois. Et on va s'écouter un petit peu de musique, quelque chose d'un petit peu je vais mettre quelque chose d'un petit peu moins frontal, on va dire. Je vais vous parler de Kay Tempest. Ça, je crois que je vous en avais déjà mis dans Daiquiri, mais c'est
donc c'est un truc mentonal, si c'est pas frontal, ou coudal, ou plus bas, genoual. Voilà, c'est la blague du jour. Promis, j'en fais qu'une.
C'est une personne qui est présente à la fois dans les milieux du slam, de la poésie, mais aussi du hip-hop, avec une carrière dans le hip-hop qui a débuté en 2001 et un premier EP en 2008 qui s'appelait Balance, suivi d'un album du même nom en 2011. Et vous allez voir à quel point c'est vraiment intertwined. Enfin, je l'ai en anglais, mais je l'ai pas en français. Mais en 2012, il y a eu aussi la sortie d'un recueil de poèmes qui s'appelait Everything Speaks in Its Own Way. J'ai connu cet artiste Kay Tempest à travers son deuxième album Let Them Hit Chaos et des lives KUXP que j'ai trouvé à l'époque où Kay avait les cheveux longs et n'avait pas réalisé son coming out d'ailleurs. Ça m'a tout de suite beaucoup plu, alors que je suis pas du tout fan de slam par exemple, mais son écriture en anglais m'a juste hyper bluffé. Bon, c'est vraiment down tempo, hein, vous allez voir, c'est pas quelque chose d'hyper funky, mais voilà, en 2020 Yael a fait son coming out non binaire et a demandé à se faire genrer avec le pronom they. Et là, on va l'écouter à travers un titre en featuring avec une artiste de folk et soul britannique qui s'appelle Liane La Havas. Et ce titre, c'est pas le premier à sortir, mais en tout cas, d'un prochain album qui va arriver de Kay Tempest, donc qui va s'appeler The Lines, The Curve. J'arrive pas à relire mon écriture, alors c'est peut-être pas ça.
Ça de décrire au dernier moment.
Mais je suis toujours ravie d'écouter Kay Tempest, quand bien même le style musical s'écarte très beaucoup de ce que j'ai l'habitude d'écouter. Donc j'espère que vous apprécierez aussi Kay Tempest avec Liane La Havas, No Prizes sur Radio Primitive.
No prizes. Take your shot for the love of the game. I used to make plans, now I make decisions. I'd always admired his nerve, as sure as the crown on his shirt. One hand in his waistband, he tells me to serve. Credit ratings, savings, loans, down payments towards his investments. What can I tell you, he says. When you have kids, it kind of shifts your perspectives. If I could do it all again, no question. I could list 10 things right now that I should have done different. But where does that get me? He blows out his smoke. The game's not done yet. He zips up his coat. We stand at the lights before crossing the road. He says as long as there's life, there's still so far to go.
I just wanna keep climbing.
Suit, sitting on the bass amp, strapping a zoop. I'm telling you, it's mad. I read one interview with this soldier in Iran. It's a government cover-up. She's looking for the lighter, but the lighter's in her hand. I'm just really trying to make a couple grand. She plays with the chain round her neck, nods deeply. Not even in this music thing, it's beneath me. I'll start my own company, run my own business, print my own money. I'll serve my own interests. I'm telling you, knowledge is key. All my life, people took my ideas, made their names off of me, but trust this. The more I look, the more I see. There's so much more I'm going to be.
Album qui va quand même sonner plutôt soul, t'as vu, même R&B. Non, ça... Bon là, la soul, elle est amenée par Liane La Havas, hein, forcément. Si vous allez voir un petit peu ce qu'elle fait, vous vous rendrez compte que c'est très love. Hein. Voilà, bon, pour moi, la soul, c'est le love. Tu vois, yeah, c'est directement.
Je peux rien dire, j'ai pas le droit de faire d'autres blagues, donc.
Non, on avait dit une blague par émission. Voilà, c'est pour ça, Gwen, t'as épuisé ton quota.
Je vais pas vous saouler.
Il est 18h, oui. Il est 18h37. Putain, ça va vraiment.
On est à DKR.
Dans Daiquiri, voilà votre programme LGBT sur Radio Primitive. Bienvenue si vous nous écoutez à Reims sur le 92.4. On parlait des événements qu'il y a eu autour du 8 mars et on...
À Reims,
bien sûr.
Ah, ça y est, je te perds.
C'est Reims, ça m'a tué.
Donc là, on en est au débat du 12 mars qui se passait à Ex Aequo.
Yes.
Et qui avait comme intitulé Femmes LGBTQI+, Convergence
et lutte.
Et lutte future.
Yes, parce que ça allait un peu, enfin, dans la continuité de cet questionnement sur femme, être femme en 2022, mais bien sûr avec cette perspective queer qui nous rassemble, bien sûr. Et donc c'était dans notre très cher local, là pour cette fois, c'était un groupe ouvert.
Oui, à tout le monde.
À tout le monde. Et donc il est ressorti pas mal de choses, on a bien discuté, beaucoup de prises de parole. Et voilà, je sais pas par quoi tu veux commencer par rapport à ça.
On avait introduit justement en montrant que dans toutes les luttes féministes qu'il y a eu historiquement, les lesbiennes étaient présentes, oui. Même si au début elles étaient très peu visibilisé. Et dans les œuvres culturelles qu'il y a pu avoir, comme des films par exemple, sur ce genre de lutte, on ne les voit toujours pas. Mais bon, ça, on a l'habitude, on est lesbiennes. Mais genre les suffragettes, il y avait déjà des lesbiennes qui étaient présentes. Alors c'était très dur parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas du tout, c'était super mal vu. Il y a un couple qui a été connu, mais qui finalement a fini dans un couplage hétérosexuel après avec des hommes. Parce que, bah, à l'époque, il n'y avait que ça pour, qui était possible. Et on sait que bah, pendant les périodes des années 60
la 70, scission du MLF,
il y a eu du coup ce désir, on va dire, de gagner en étant bien vu, donc de peut-être mettre un peu les lesbiennes de côté, alors que c'était des moteurs, parce que ces femmes, je pense qu'elles avaient plus de temps surtout, parce qu'elles n'avaient pas de vie de famille, elles n'avaient pas d'enfants à charge, elles n'avaient pas de mari à s'occuper, donc je pense qu'elles étaient plus investi et elle
et
avait
clairement,
tout à gagner.
Plus radical. Le discours était plus radical. Voilà. Le discours anti-mec était plus radical et je pense que au bout d'un moment, il a fallu lisser un peu son discours et je pense que ces lesbiennes, elles posaient problème, clairement, quoi.
Mais ça a été vraiment des moteurs. On peut citer Whiting, qui était quand même un des piliers à cette époque.
De citer, oui.
Ah oui, c'est vrai que ces ayants
droit
sont pas très,
apparemment sont pas très sympas.
Pas très cool, quoi. Mais donc voilà, on a juste rappelé c'est qu'elles étaient présentes et que c'est important que justement on perde pas nos championnes, les meilleures d'entre nous, et que on fasse front commun justement pour arriver à niquer le patriarchat, le seul chat qu'on aime pas.
C'est vrai ça. Et donc la question qu'on s'est posée en fait, c'est en quoi nous, les personnes queer, on pourrait, on peut faire converger nos luttes avec les luttes féministes, parce que même si nos identités sont queer, et ben on est très investis dans les milieux féministes. Mais comment on peut échanger sur nos vécus entre hétéras et personnes queer et rendre le monde meilleur.
Surtout qu'on sort d'une victoire, parce que la PMA c'était quand même un combat unis, alors principalement des lesbiennes, mais il y avait aussi les femmes seules qui avaient de la reconnaissance à gagner là-dedans. Donc en fait, le combat, il a été commun. Alors finalement, on a gagné. Bon, alors pas pour tout le monde, parce que les femmes trans ont encore eu des limitations, et je pense que là, vu que ça a été voté, on n'est pas prêt d'avoir des avancées d'ici des années. Mais bon, c'est la vie, mais on va quand même se battre. Mais là, la question, c'était de maintenant, sur quoi on pourrait se retrouver, sur quoi on pourrait partir. Et j'avoue que moi, je me pose la question, c'est qu'en ce moment, il y a pas mal de bouquins qui partent justement qui parlent du relationnel hétérosexuel, de comment ça se passe en couple, pourquoi il y a cette charge mentale qu'on a vachement vue pendant la Covid, pendant les périodes de confinement, pourquoi il y a ces violences, pourquoi il y a ces mortes qui se font pratiquement dans la sphère du couple. Et je pense que c'est peut-être là où on pourrait aider les hétérosexuels. Alors pas pour dire nous on est meilleurs, nos couples ils sont parfaits, parce que de toute façon on sait très bien qu'on est juste un singement de la société hétérosexuelle, vu qu'on a été élevé dedans.
Bah oui, donc, puis on reproduit aussi ce qu'on a connu. Quand bien même on le critique, il y a des choses qui sont ancrées en nous et qu'on reproduit, quoi.
Mais il y a peut-être plus de liberté, peut-être de possible. Et donc du coup je pense qu'en se réunissant sur ce sujet, parce que j'ai l'impression que ça peut être une pierre angulaire intéressante. Là, tout à l'heure, on parlait justement de ce truc du patriarcat, que si on retire qu'un rouage, il continue à tourner. Mais j'ai l'impression que c'est intime, ce privé qu'on essaye justement de garder dans une boîte et de pas le voir parce que ça nous regarde pas. Ben, si on le regarde bien et si on arrive peut-être à bosser dessus pour justement arrêter d'avoir des relations toxiques comme ça, de se bouffer alors que normalement c'est de l'amour, je pense que là, il y a peut-être un levier qui pourrait peut-être permettre de changer les choses. Donc là, la question, c'est est-ce qu'il faut se retrouver pour justement discuter sur ces possibles. À une époque, il y avait ce positionnement politique de se dire devenir lesbienne politiquement, pour dire d'arrêter de relationner avec les hommes pour pouvoir justement enfin être libéré de ce qui nous impose sans le vouloir, parce que c'est juste le patriarcat qui fait ça. Et je pense que il y a des pistes là-dedans.
On rappelle que des gens comme Thérèse Claire l'ont fait. Celle qui a monté la maison des Baba Yaga à Montreuil, quand même. Enfin, on parle pas de n'importe qui, on parle pas de meufs non plus, si elles étaient quand même considérées comme radicales, mais c'est pas des paroles en l'air, c'était pas juste deux meufs qui ont décidé de devenir lesbiennes parce que c'était chouette. Non, c'était une décision politique. Et malgré ça, on a quand même. Alors on s'est dit, oui, ça veut dire qu'on peut créer des temps de discussion sur des thématiques entre les hétéras et les queers pour justement parler de nos relations intimes, parler de comment on gère ces relations, comment on gère la charge mentale, comment on gère l'éducation et tout ça. Par contre, malgré le fait de créer ces espaces pour pouvoir échanger et peut-être s'empuissanter, comme on dit, en ressortir plus forte, il m'est semblé évident que ça avait une limite, puisque à chaque fois, eh ben, on s'adresse aux meufs encore, quoi. Et encore une fois, ça veut dire que c'est encore aux meufs de, c'est encore ces meufs qui vont échanger du savoir. Mais
pour essayer de construire une nouvelle alternative,
mais c'est pas suffisant pour changer une société. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que les hommes s'en emparent. Et encore une fois, si on se poste dans un rôle de sachant et en termes de passation de pouvoir ou d'éducation, tu vois, on est encore dans ce truc de, eh ben, les hétéras, elles vont aller chercher des infos et elles vont essayer difficilement ou pas de les appliquer à leur couple. Et le problème, c'est que ça peut pas marcher si d'un autre côté les mecs décident pas des mêmes choses, en fait, et sauf que ces mecs là ils viennent pas, comme on le disait, aux discussions. Donc au bout d'un moment, comme on le disait, stop, il faut se bouger le cul et venir aux discussions qu'on propose comme ça, ou aux ateliers, puisque c'est vers un meilleur vivre ensemble qu'on va, quoi.
Et on s'est posé la question de se dire, est-ce que le changement pour des côtés des hommes, il pourrait pas venir justement des hommes trans? Parce que l'avantage, alors bien sûr, les hommes trans, ils peuvent aussi être bombardés de clichés, de virilité, de trucs super crades, donc ça arrive, hélas, parce qu'on n'est pas parfait. Mais il y a ce truc d'avoir eu ce vécu en tant que meuf, d'avoir vu ce que c'était le sexisme, vu ce que c'était le patriarcat, on peut se dire que maintenant, dans leur façon d'être des hommes, sera peut-être pris plus en compte, et il y aura peut-être justement la création de nouveaux standards de masculinité, en fait. Parce que c'est ce qu'on veut niquer, c'est juste la masculinité hégémonique qui nique tous les mecs, en fait. Parce que ça, vous serez jamais Conan le Barbare, désolé.
Et les mecs cis, si un mec trans qui doit déjà gérer émotionnellement une transition, des hormones, un entourage qui suit peut-être pas, enfin, dévasté, enfin, une transition, c'est, ça peut être très chouette, mais ça peut être aussi un peu difficile.
On le fait par survie,
si
pas par plaisir.
Si un mec trans arrive à changer son relationnel, qu'est-ce que vous foutez, bordel, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Au bout d'un moment, si la solution vient des mecs trans, enfin, non. C'est un bon espoir.
Un questionnement. Et ça pourra peut-être... on espère qu'on trouvera des alliés. On vous attend, les gars. Hein. On vous surveille, on vous écoute et on est là.
Et on a déjà fait des émissions où on explique ce qu'il faut pour être un bon allié. On vous invite à aller relire...
Read the book.
On vous invite à aller relire Léo Thiers-Vidal, les mecs, si vous voulez être allié féministe. Léo Thiers-Vidal, qui est quand même mort à force d'avoir fait des ateliers en non-mixité avec les mecs, et qui a vu que ça n'avait aucune prise et que, bon, c'était multifactoriel. Il n'y a pas que ça qui l'a dirigé vers le suicide, mais quand même. Voilà, allez vous éduquer déjà sur le féminisme. Venez en manif, venez vous éduquer vous-même. Vous-même, s'il vous plaît, attendez pas qu'on vous mette tout dans les mains et venez soutenir nos luttes, quoi, parce que comme toutes les luttes, voilà, on a besoin d'un coup de main, quoi. Et on n'est pas anti-mec, ouais.
Je te fais mon pamphlet haineux comme ça.
Non, on va pas faire ça. Non, on va pas faire ça. Je crois que c'est à toi. À moins que je mette mon princesse voiture.
Non, bah vas-y, mets ton princesse voiture, sinon tu vas m'en vouloir toute la soirée.
Je mets princesse voiture de Sexy Sushi, puisque je suis une grosse fan de Sexy Sushi. Julia Lanoé, d'ailleurs, je crois, c'est son nom, qui figure dans Compromat, Sexy Sushi, ou encore Mansfield de Tia. Et ce n'est pas du tout une nouveauté, les amis, mais elle a fait une très chouette interview qui est parue dans le magazine, j'allais dire, mais c'est en vidéo sur les plateformes, Trax avec un X. Et allez écouter. On en apprend plein de choses sur ses différentes formations et sur sa vie. Moi, je suis une grande fan, donc ça ne peut que me plaire. Et donc, du coup, après tout ça, j'avais envie de tout balancer à la Sexy Sushi et de faire le bordel. Et donc, on va écouter Princesse Voiture, Sexy Sushi.
Yeah. t'as les glandes, j'ai la haine.
Pamphlet haineux, Gwen.
Tu as 2 minutes.
Oui, bah c'était pas du tout prévu, donc on va faire un petit bilan du Woman Pop Festival, un festival que tout le monde encense alors qu'il n'existe toujours pas, parce qu'il arrive qu'en 2023. Donc il y avait une petite rendez-vous au Palais des Congrès, on a été dans des sièges super confortables.
Alors toi tu y es allé, moi j'y suis
oui,
pas
oui,
allé,
toi, t'es
mais
pas
avec
allé.
Plein de copines.
Et du coup, il y avait une personne qu'on voulait voir principalement, donc ils ont fait un petit jeu, c'était mettre 80% de femmes et 20% d'hommes, pour faire comme dans l'inverse de la réalité. Donc il y avait le copain Youssef qui était là, qui a dû finir sa nuit dans le fauteuil. Bon, au moins, il a été honnête. Il a dit qu'il était là parce qu'il savait pas dire non et qu'il habitait à Reims. Mais bon, ses interventions n'étaient pas du tout intéressantes. Bon, il y a la journaliste qui arrêtait pas de le réveiller à chaque fois pour dire que c'était un homme et faire des petites blagues misantes. Mais bon, ça servait à rien. Donc, la prochaine fois, reste chez toi, gros. Hein, c'est pas grave. Alors heureusement il y avait Pénélope Bagieu et Jennifer Padjeni qui étaient super cool, qui ont fait des interventions super intéressantes, et à la fin on a bien sûr eu le droit au monologue du mec pendant 10 minutes qui nous a expliqué que lui son milieu était parfait, la musique classique, ce qui n'est pas le cas, chérie. Et qui en fait dit que le sexisme n'existe pas, c'est juste des gens débiles qui font ça. Oui, merci Jean-Michel, merci. Donc on espère que en 2023 ils oseront faire des tables 100% féminines, parce que dans leur affiche
c'est
marqué que c'est un festival
radical.
100% féminin.
C'est trop radical.
Donc, on verra.
Donc c'était le Woman Pop Festival
ouais, Woman
en
Pop
deux
Festival.
Minutes. Merci Gwen.
Et maintenant l'agenda.
L'agenda. Sans... Oui, parce que même si s'est passé plein de choses autour de ce 8 mars, eh bien il y a encore plein de choses qui vont arriver et on va vous en parler avant la prochaine émission parce que ça sera trop tard les amis.
Est-ce que le dernier rendez-vous qui est dans autour du 8 mars, ce sera le 26 mars à 15h30 au local d'Execo sur une discussion sur la transmisogynie. Et qui sera dans le cadre du 8 mars, mais aussi de la journée de visibilité trans, qui se passe le 30 mars, si je ne m'abuse.
J'ai noté le 2 avril.
Mais ben bon, non, c'est pas le 2 avril.
Alors, c'est pas... Vous voyez, mon agenda, il n'est pas bon. Voilà.
Et on fait une intervention le 31 mars dans la médiathèque de... Non, c'est pas une médiathèque, si.
Si, médiathèque de
Bethny. Médiathèque de Bethny, que je ne connais pas encore. Il y a une projection du film Coming Out, donc le 31 à 19h30. Et après, il y aura une discussion avec la salle, avec des bénévoles de Execo. Donc je ferai partie.
Voilà, donc il faut venir. En plus, c'est chouette Bethny. Alors venez.
Ouais. Et il y a un truc super cool le 2 avril avec de la bonne bouffe, plein de trucs autour. Donc venez aussi, ça risque d'être sympa.
Et enfin, je crois
en avril,
le 9 avril, non ?
Le 9 avril, il y a une discussion sur la sexualité avec Zeko, pareil, 14h30 l'après-midi. Et le 16 avril, surtout, c'est le grand moment entre les deux tours, avec au temps des cerises, près à Croix-Rouge, à côté de l'hippodrome. Vous retrouverez la fête ou le choléra, qui va justement vouloir faire la fête, ça c'est sûr, et espérer que la semaine d'après, nous n'aurons pas le choléra. mais ça, c'est pas gagné. Donc, c'est un rendez-vous avec diverses associations. Il y aura de la bouffe, il y aura des débats, il y aura des jeux, il y aura des concerts.
Et une boum!
Et une boum, voilà, parce que le but, c'est de faire la fête avant de plus pouvoir la faire quand on sera dans des camps, hein.
Oh là là,
tu sais.
Oh là là.
Donc oui, ça risque d'être chouette. Et c'est organisé par la confrérie La Frite et la Plume. J'adore ce nom.
Coucou les copains. Coucou les copains. C'est chouette ça.
Oui, c'est chouette.
Plein de choses à faire. Donc on était donc sur le quartier Croix-Rouge, puisqu'on rappelle que le temps des cerises, le chape est monté, les amis.
Ouais, à moitié monté là. Le petit est mis, le gros est à moitié mis.
Donc ça se déroulera voilà, sur le quartier Croix-Rouge et à Bethny juste avant, donc on investit tout Reims là.
Exactement, on est partout. Vous avez vu, on dit, depuis le 8 mars, ça y est, on rigole plus maintenant, cette année tout va changer.
Et si vous êtes une personne LGBT et que vous avez envie de voir du monde, eh bien sachez que on vous attend avec Gwen bien souvent les vendredis soirs au local de l'association Execo, où se déroule chaque vendredi soir un bar associatif que l'on tient avec grand plaisir. Et puis
vendredi
voilà.
Il y a un karaoké.
Vendredi on fait un karaoké, les gens
un
ça
un petit karaoké.
Hein.
Pas d'heure.
Donc vous êtes les bienvenus. Je te propose.
Dernière zic.
Ah bah oui, on va peut-être passer.
La mienne, la tienne.
Ah bah vas-y, j'ai passé le truc que je devais pas passer, donc maintenant
bah
c'est à toi.
Bah, du coup, Nona Hader, qui est une rappeuse américaine, poétesse,
Hader,
activiste.
Hader, c'est la sœur de Odor.
Je sais pas.
J'en ai fait.
Ouais, t'as fait une blague, merci Mo. Donc c'est une rappeuse américaine, poétesse, activiste et apparemment aumônière, mais c'est étrange, qui est d'origine syrienne, qui a commencé ses activités en 2018, qui a fait des études sur l'éthique chrétienne, donc je pense que c'est pour ça que maintenant elle est aumônière, et c'est une personne qui porte le voile et qui a fait une super chanson qui s'appelle « Wrap My Hijab ».
Et c'est ça qu'on écoute ?
Oui, c'est ça qu'on écoute.
Eh ben c'est super, Dakiri c'est fini les amis.
Voilà, on se retrouve le mois prochain, on sait pas pourquoi.
Jamais, sera, on ne sait jamais.
Ce sera la 25e.
Voilà. Mais on sera toujours là.
Exactement.
Allez,
on vous embrasse.
Ciao la France.
What the hair look like? Bet the hair look nice. Don't that make you sweat? Don't that feel too tight? Yo, what your hair look like? Bet your hair look nice. How long your hair is? You need to get your life. You only see Oriental. You steady working that dental. You popping up at the lip and run your mouth like a treadmill. Not your exotic vacation. I'm bored with your fascination. I need that paper, paper, paper. If you want education. All around the world, love women every shade of hair. Ladies, we was born in the 80s, so pretty like the Euphrates, and party like some Kuwaitis, deeper than some diplomas, current like some hot yoga, taking back the misnomers and teleporting through trauma, teleporting through trauma, teleporting through trauma. I've been stacking my karma, Nefertiti, no drama, make a feminist planet, woman haters get banished, covered up or not, don't ever take us for granted. All around the world, love women every shade of. Even if you hate it, I still rap my hijab. Rap my hijab. Rap my hijab. Rap, rap my hijab. Keep swagging my hijab. Swagging my hijab. Swagging my hijab. Swagging, swagging my hijab. I still rap my hijab. Rap my hijab. Rap my hijab. Rap, rap my hijab. Keep swagging my hijab. Swagging my hijab. Swagging my hijab. Swagging, swagging. You're just jealous of my sisters, these mixers, these hippies, these prissies, these Sufis, these dreadies, these Sunnis, these Shiais, Yemenis, Somalis, Lebanese, Pakistanis, these Sudis, Sudanis, Iraqis, Punjabis, Afghanis, Yazidis, Khadijis, Indonesians, Egyptians, Canadians, Algerians, Nigerians, Americans, Libyans, Tunisians, Palestinians, hidden beyond the Mekong in Laos, Senegalese and Burkina Faso.